When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Vous avez vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les Jeux. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leur exploit, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces Olympic Legends. Je suis Arnaud Di Pasqua, l'ancien tennisman médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en 2000. Et aujourd'hui, je reçois trois légendes, trois nageurs. Alain Bernard, Fabien Gillot et Frédéric Bousquet. Salut messieurs, ravi de vous avoir sur ce podcast pour parler des Jeux Olympiques. Première question qu'on pose à les athlètes que l'on reçoit, c'est votre ou vos médailles pour le coup, elles sont où ? Alors, on n'est pas obligé de tout dévoiler, je sais que voilà, certains... Les athlètes n'ont pas voulu dire où elles étaient, mais est-ce que vous les avez, je ne sais pas, il y en a qui les ont passées à leur famille, à la tante, aux grands-parents. Elles sont vos médailles ?
Allez Fred, à toi,
allez,
honneur à toi.
Lancez-vous.
Moi, c'est simple. La plupart de mes médailles, je pense que c'est ma mère qui me les a tirées. Elle a dû les coffrer dans des boîtes à chaussures qu'elle garde précieusement sous son lit. Mais la plus importante à mes yeux, c'est celle que je partage avec Fabien et Alain, c'est celle de Pékin. Elle est près de ma tête de lit, près de moi.
Tu la gardes près de toi. D'accord. Toi, Fabien ?
Alors moi, jusqu'à il y a pas si longtemps, ça remonte quand même à quelques années. Je les avais à la maison pour en profiter, faire souvent plaisir, parce que les gens te demandent souvent de les voir. Ouais. Et je suis très pote avec Lucie Decosse, judokate. Qui s'était fait cambrioler, qui s'était fait piquer toutes ses médailles. On avait un copain nageur aussi sud-africain, Rick Niesling, qui s'était fait cambrioler en Afrique du Sud et s'était fait piquer aussi toutes ses médailles. Donc moi, depuis quelques années maintenant, j'en profite beaucoup moins, mais elles sont au coffre à la banque.
D'accord.
Pas très fun, pas très marrant, mais j'ai tellement peur de me les faire braquer. Et puis tu sais, à Marseille, il y a très peu de cambriolage.
Il paraît. Toi, Alain ?
C'est marrant que tu parles de ça, Fab. Alors, mais je les garde aussi précieusement et je les change régulièrement d'endroit parce que j'aime bien les montrer à des gamins en stage, sur les stages d'natation que je fais. Et justement, je les ai faites expertiser il y a très peu de temps parce que je vais probablement bosser avec un cabinet d'assurance pour proposer aux athlètes d'assurer leurs médailles. En fait, c'est un marché qui n'existe pas vraiment, sauf si Fabien me contredit, mais il faudra qu'on parle business, Fabien, parce que je pense qu'il y a une vraie opportunité pour tous les athlètes de notre génération, des anciennes générations et des générations qui arrivent, de pouvoir éventuellement assurer leur médaille, même si j'ose pas imaginer la souffrance dont notamment Lucie Decosse, quand on a dû lui voler ses médailles, c'est irremplaçable. Voilà, ce sont des objets irremplaçables, il y a un lien affectif. Mais en tout cas, voilà, je les garde en sécurité et je sais que ça met toujours des étoiles dans les yeux aux gens aux jeunes et moins jeunes qui les voient, quoi.
Bon, vous ferez le point alors pour le business après avec Fabien. Yes. Alors pour revenir justement à ces médailles olympiques, quel souvenir, quel goût en fait vous en avez finalement ? Est-ce qu'il y en a ? Alors ça dépend. Toi, je crois que Frédéric, t'en as qu'une, ce qui est déjà fantastique.
Donc, mais
c'est magnifique déjà. Et quel goût, quel est ton souvenir justement de cette médaille si tu devais justement un peu te remémorer un peu ces souvenirs, qu'est-ce qui t'en reste comme saveur ?
J'en ai qu'une de médaille, mais celle-ci, elle nous a fait un peu passer par toutes les couleurs et par toutes les émotions, par toutes les gammes d'émotions. D'un point de vue personnel, je l'ai prise avec beaucoup d'amertume et d'aigreur au départ. Elle avait un goût sacrément amer, cette médaille d'argent. Puisqu'on loupe le titre olympique à 800e. Et il m'a fallu du temps pour, pour savoir là, véritablement l'apprécier à sa juste valeur et surtout apprécier tout le chemin qu'on avait acquis et qu'on avait parcouru. Les uns les autres le relais en équipe, bien sûr, nous six, mais les autres les uns les autres individuellement pour pouvoir parvenir à ce résultat. Donc ça a été un peu d'ingratitude au départ à l'égard de cette médaille, même à vouloir un peu l'oublier, la mettre de côté. Et les années passant, finalement, de plus en plus de fierté, parce que bon, bah déjà, je me raccroche à la seule médaille olympique que j'ai, évidemment, donc je la valorise. Mais je la valorise plus particulièrement par rapport à est-ce qu'elle a pu nous apporter, ou du moins moi, humainement parlant, d'un point de vue individuel par rapport à ce qu'on a vécu, et même les après.
C'est assez marrant ce que tu dis, parce que sur les précédents, justement, podcasts avec d'autres athlètes, la médaille d'argent, elle laisse souvent un goût amer au début. Elle laisse souvent un goût amer, contrairement presque au bronze, quand tu as une petite finale dans certaines disciplines où tu finis par gagner, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, cette médaille d'argent, c'est souvent qu'on entend dire, en plus là, c'est à 800e, hein, ça se joue à rien du tout, donc grosse paire de boules, et donc ça met du temps. Et toi, Fabien, pour le coup, sur les différentes médailles, si tu devais un petit peu, justement, enfin, faire le point, et c'est celle qui t'a peut-être le plus marqué, ça serait laquelle ?
Bon, celle qui m'a le plus marqué, probablement 2012 et la victoire du titre, mais je pense qu'on a eu le 4x100 français, et on a été plusieurs à le composer, et Alain et Fred ont fait partie des piliers du début de l'aventure, et je rejoindrai Fred sur 2008 où beaucoup de tristesse parce que tu passes à pas grand chose du titre. Je pense que techniquement et physiquement on était probablement les meilleurs ce jour-là, et que notre manque d'expérience à ce niveau-là, parce que quelque part c'était la première fois qu'on jouait ce genre de médaille, nous a desservi, tant l'équipe que le staff. Après, j'ai eu la joie de gagner 2012, 4 ans après, et Dieu sait que 4 ans c'est long, tu as beau travailler dur au quotidien, le sport c'est pas une science infuse, et tu le sais très bien, c'est pas parce que tu bosses que ça te garantit d'être performant et de jouer le titre 4 ans après, donc beaucoup de fierté. Et après, il y a eu 2016 aussi, toujours la même aventure face à ce relais américain où on se retrouve encore à peu près avec les mêmes. On perd cette fois de pas grand-chose, une fois de plus, parce que ça joue toujours à pas grand-chose. Mais beaucoup moins d'amertume et énormément de fierté sur cette médaille-là.
Je dois ma carrière aussi à des garçons comme Fred et Fabien qui étaient en équipe de France bien avant moi. Et je repense forcément à ce relais médaillé au championnat du monde en 2003 où Fabien, même qui a un an de moins que moi, qui est déjà en équipe de France, moi je n'y suis pas, il est déjà dans ce relais, il est déjà médaillé mondial. 2005, on a une mésaventure parce qu'on ne se qualifie pas au championnat du monde. Et voilà, 2006, 2007, etc. À chaque fois, on est médaillé, deuxième, troisième. Et en fait, jusqu'en 2012, on va réussir à transformer ces médailles d'argent de bronze avec la médaille d'or. Et ça, Fabien a été aussi l'un des piliers dans cette génération. Donc, à nous trois, je pense qu'on est conscient en fait que cette aventure et nos résultats en fait ils sont liés à jamais en fait. On est liés à jamais par ce relais, comme d'autres athlètes aujourd'hui qui constituent le relais seront liés à jamais dans cette aventure.
Et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui était exceptionnel. Peut-être qu'on s'est un peu basé de la culture anglo-saxonne au début, donc les États-Unis, les Australiens qui sont deux très grandes nations dans notre sport, et on s'est rendu compte qu'en fait pour gagner ce genre de course, il fallait créer quelque chose de plus. Un ADN, une fierté d'appartenance, un but commun, et que finalement, tu peux additionner les 4 meilleurs du monde, ça ne te permettra pas forcément de gagner ce relais. Et on s'est focalisé beaucoup plus sur ce qui nous animait les uns les autres, vraiment s'épauler, vivre des moments dans l'année où on était soudés. Et ça a fait la différence. Enfin, moi, je me rappelle d'une Via Ferrata qu'on avait fait tous ensemble. Fred avait apprécié, par exemple.
C'est vrai que, ouais, pour la petite anecdote, juste pour préciser, en fait, on avait fait un stage de regroupement entre la qualification des championnats de France en 2008 et les Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. On était juste un petit peu, enfin voilà, moi j'en ai parlé au DTN et tout ça, on était tous d'accord de se retrouver, tous les membres du relais, et on était déçus de ne pas avoir Amaury avec nous, parce que voilà, c'était un élément qui manquait. Pour moi, ça a été un peu le début d'une faille en fait dans ce relais, parce qu'on était censé être 6 gars, et en fait là on était 5, mais néanmoins, nous 5 qui étions réunis, et je pense qu'on garde un très bon souvenir, et même si Fabien avait le vertige, je pense qu'il a été courageux. Au moins pour faire une photo avec les deux doigts relevés quand il était accroché, ça, je me souviens.
J'ai l'impression que tout le monde se rappelle que les autres avaient le vertige, mais ils n'en menaient pas l'âge non plus. Hein,
c'est vrai.
Et puis, je vais en profiter pour en mettre une petite touche sur Greg qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais lui, je pense que c'était le pire. Hein. Je pense que je n'ai jamais vu autant trembler de toute ma vie. Même avant une finale d'un 4x2, il ne tremble pas autant, le gars. Et je pense que c'est ce qui a permis de créer un véritable esprit à ce relais. C'est ces quelques jours passés ensemble nous aurons réellement rapprochés. Et ce rapprochement, regarde, ça fait 13 ans qu'il y est et qu'il perdure.
Ça, vous en aviez conscience vraiment ensemble pendant votre carrière? C'est vous qui étiez presque proactif à demander justement des regroupements entre vous, qui demandiez aux entraîneurs, aux sélectionneurs, à la DTN? C'était vous vraiment qui étiez…
Ouais. Mais je pense qu'on a vécu, nous, dans une… On a été un peu la transition d'une natation qui travaillait chacun de son côté. Avant nous, chaque club travaillait de son côté. Tu avais des petites guéguerres internes, etc. Et je pense qu'on a été la première génération, de par le relais, évidemment, parce qu'on avait tous un intérêt commun, d'avoir envie de se voir un petit peu plus souvent, de travailler ensemble. Et je pense que l'une des plus belles photos… Et je crois que c'était une couverture de l'équipe à l'époque. Je crois que l'une des plus belles photos de ce relais, c'est la finale des championnats de France, justement, 2008, où le niveau français avait été très relevé pour se qualifier. Il y avait Grégory Mallet, il y avait Amaury Leveau. Enfin, il y avait déjà des grosses pointures. Et il y a cette photo où, en fait, on est tous au milieu du bassin à lever la main et à se tenir tous la main. Et en fait, de là est né quelque chose, je pense. Il y a vraiment une âme d'équipe qui s'est bâtie. Et c'est surtout, je pense que c'est à ce moment-là que le relais s'est construit et a construit les 10 années qui ont suivi, où on s'est dit, tout simplement, les Américains et les Américains de Michael Phelps, ils sont battables. Parce qu'une fois de plus, nous, on a eu, je pense que c'est une chance, parce que ça nous a poussé dans nos retranchements. On parle d'Usain Bolt, qui a 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques, qui est une légende. Mais nous, en face de nous, on avait Michael Phelps et 23 médailles aux Jeux, dont 26 médailles aux Jeux, pardon, dont 23 en or. Donc, on avait un extraterrestre à battre. Et je pense que vraiment, ce duel face aux États-Unis nous a amené à nous surpasser individuellement et collectivement.
Après, je me permets juste, Arnaud, je reviens sur cet épisode du relais. Moi, je ne peux pas non plus passer le fait que, en fait, la position du relais, je ne sais pas si on y reviendra après, mais les positions, et en sachant que je devais partir deuxième, troisième, je pars quatrième, etc. Et quand je touche le mur, je me fais battre par l'ESAC, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir super mal nagé ce jour-là. Et en fait, quand je vois que l'ESAC, en fait, contre moi, il a nagé 46-06, en fait, il fait un chrono d'extraterrestre qu'il n'a jamais fait. Et je me dis, mais pourquoi ce mec, il nage ce jour-là aussi vite contre moi dans ce contexte? Alors que je suis censé être à ce moment-là le mec le plus rapide du monde, les collègues me donnent le relais avec 1m50 d'avance, c'est impensable que je touche deuxième. Donc j'ai un gros sentiment, comme Fred au tout début, de culpabilité et tout, de responsabilité de ce relais. Et c'est marrant parce que j'ai revu une image, je suis en train de refaire le tri en ce moment parce que j'écris mon autobio et tout, et je revois une image où j'ai tous les trois autres gars autour de moi qui sont là pour me consoler, mais je suis inconsolable en fait à la fin de la course. Parce que je m'en veux et j'ai l'impression que je m'en voudrais d'un côté toute ma vie. En même temps, quand je regarde la performance que je fais ce jour-là, c'est que ben voilà, on nage tous dans les mêmes eaux dans le relais. On nage tous, Fred 46-6, moi 46-7. Voilà, Amaury nage vite aussi au départ. Et en fait, on se dit, mais voilà, c'est qu'on ne devait pas l'avoir à ce moment-là. Mais pourquoi nous? Parce que sur le papier, encore une fois, on était imbattables.
Je pense que ça a été malheureusement un mal pour un bien. C'est que… pour revenir sur le sujet, on en a assez parlé entre nous de ce relais de 2008, c'est que le staff qui était peut-être en place en fait, n'avait pas exactement la même vision que nous. Et sur l'ordre du relais, je pense qu'on s'est trompé. Il y a eu une erreur du staff, il y a eu beaucoup d'amertume, plus envers le staff qu'envers les athlètes. C'est-à-dire que Fred prendra la parole derrière, mais on n'en a pas du tout voulu à Alain, par exemple, de se faire remonter ce jour-là. On était plutôt, si tu veux… déçu de savoir qu'on avait perdu sur un mauvais ordre de relais alors qu'on était les meilleurs à ce moment-là. Et je pense que de ça, en fait, est née une toute autre équipe, un tout autre 4x100, où les athlètes, après ça, se sont rendus compte qu'ils devaient prendre part aux discussions d'ordre de relais et de prendre quelque part une forme de pouvoir sur notre stratégie tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, où finalement, le staff venait trancher s'il y avait besoin de trancher, mais ça a souvent été les athlètes qui ont choisi les ordres de relais tous ensemble.
Fred, t'es d'accord?
Ça a été un malheureux épisode. Comme Alain et Fabien l'ont très bien dit, il y a eu des erreurs de notre part et de la part du staff. Il est évident qu'on ne peut pas mettre la faute ou la réussite d'un relais sur un seul athlète. Un relais, c'est 6 nageurs. ou 4, suivant les périodes ou le pays. Mais nous, en l'occurrence, on était 6. Et on gagnait à 6, on perdait à 6. Et sans pointer du doigt tel ou tel athlète pour tel ou tel comportement ou attitude dans l'eau. Parce qu'on était, par contre, à ce moment-là, tous, autant les autres, irréprochables. On était tous déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on était dans une atmosphère très positive, très bienveillante les uns envers les autres. Et oui, on se rappelle tous d'Alain effondré à la fin du relais qui s'écroule en prenant la responsabilité de cet échec. Il peut pas. Bon, d'accord, il a le sentiment d'avoir nagé très lentement alors qu'il nage un des relais les plus rapides de l'histoire. Il tombe contre un Américain qui est l'Américain le plus expérimenté, le plus roublard de cette équipe des États-Unis qui est eh bien, la plus dominante dans ce sport de la natation, qui est encore plus dominante dans ce relais, puisque on sait très bien qu'à chaque Olympiade, ils sont là à défendre ou à faire vice-champion olympique, que ce soit contre les Sud-Africains ou les Australiens. Donc, ils sont toujours là, au top. Et donc, on peut pas se jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre. Évidemment, à parler de tout ça, ça recrée quelques mémoires qui sont moins agréable lorsqu'on apprend que notre relais, l'ordre de notre relais a été changé sans nous en avertir, mais ce sont des faits de vie, des faits de carrière, des faits de sport qui nous ont permis aussi de nous renforcer les uns les autres, comme je le disais tout à l'heure. Ça ne nous a pas tués, ça nous a rendus plus forts, ça les a rendus plus forts 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, ça leur a permis de faire absolument aucune erreur et d'être conscients de leur plein potentiel et de remporter cette heure olympique à Londres comme ils l'ont vraiment fait brillamment, la plus belle des manières.
Bien sûr. Là, on peut revenir sur, toujours à Pékin pour le compte 2008, sur ta médaille d'or sur le 100 mètres, donc nage libre. Tu arrives, tu es grand favori, tu as battu 2 fois le record du monde avant d'arriver. Comment tu le vis ? Est-ce que c'est, alors, parce que ça peut être à double tranchant quand on est athlète. Est-ce que c'est une confiance énorme ou est-ce que c'est beaucoup de pression en même temps ? Comment toi, tu le vis ?
J'ai envie de dire, il y a un peu des deux. Il y a de la confiance et d'un côté de la sérénité, de l'autre de la confiance, parce que ça fait des années que je monte en puissance. Et encore une fois, comme j'ai dit, grâce au gars, j'ai acquis de l'expérience internationale grâce au relais et j'arrive sur le tard. Moi, j'ai déjà 25 ans, en fait. Donc, je suis vraiment entre l'âge de Fabien et de Fred. Voilà, j'ai toujours appris à séquencer dans toutes les compétitions, que ce soit les championnats de France ou les meetings de travail, en fait, en passant, de scinder les courses les unes après les autres, que ce soit les relais, les épreuves individuelles. Et donc là, dans l'épreuve individuelle, je peux pas me dire je vais tout laisser tomber parce que j'ai l'impression d'avoir pas bien nagé en relais, etc. En fait, je séquence les courses et en arrivant en finale, là pour le coup c'est Eamon Sullivan qui a beaucoup plus de pression que moi. Et je pense que encore une fois, des fois c'est pas forcément le meilleur, le plus rapide qui gagne, c'est celui qui arrive à s'exprimer au mieux de ses capacités en fonction du moment et du contexte. Dans la finale des Jeux Olympiques, j'ai réussi à battre Eamon Sullivan, pourtant il n'a pas fait son meilleur temps. Un an plus tard, à Rome, j'étais persuadé que j'étais plus fort que César Cello, et pourtant, c'est César Cello qui a touché devant. Donc, en fait, et heureusement qu'il n'y a pas cette certitude dans le sport. Si on te disait, bah, toi, tu vas finir premier et toi, tu vas finir troisième, en fait, je ne prendrais même pas le départ. Donc, c'est cette part d'incertitude qui est excitante aussi. En tout cas, c'est l'ambiance, l'atmosphère globale des Jeux, en fait, qui est juste extraordinaire. Quand on regarde les photos, voilà, 13 ans après, et quand on voit aujourd'hui les premiers athlètes qui arrivent au village, qui commencent à poster des stories, à mettre des photos, etc., on s'y revoit, enfin je sais pas vous les gars, mais moi je m'y revois encore devant les anneaux quand on fait les photos avec la tenue, etc. Quand on regarde la cérémonie d'ouverture à la télé, qu'on est dans des chambres à côté, on se dit putain mais c'est un spectacle extraordinaire, ça doit rester une fête et un souvenir extraordinaire, en fait, les Jeux Olympiques.
Justement, on va en parler après des Jeux un peu de l'intérieur, mais pour finir, enfin, tous les trois, le podium, donc alors peut-être l'amertume, hein, Frédéric, tu dis sur le podium encore, parce que tu dis que tu as mis du temps finalement à te dire enfin, que tu pouvais être fier quand même de cette médaille d'argent. Mais sur le moment, c'est dur, même le podium, ou sur le podium, tu arrives à prendre du plaisir quand même.
C'est difficile. Tu es partagé en fait sur le podium. Je me rappelle avoir vraiment un moment partagé parce que je suis entre le moment de me dire, écoute, apprécie pleinement ce que tu es en train de vivre. Donc, je me retrouve sur ce podium et en fait, j'en veux à ce moment-là énormément au staff de l'équipe de France.
Tu n'arrives pas à prendre le plaisir, tu n'arrives pas juste dans le plaisir de te dire j'ai représenté.
Et justement, je suis en pleine bataille avec moi-même pour me dire mets ça de côté et prends le moment présent, prends ce que tu es en train de vivre parce que c'est ce que tu voulais vivre depuis depuis le moment où tu as commencé à nager, le moment où tu as mis un pied dans l'eau, c'était quoi? C'était de faire les Jeux Olympiques, puis d'être médaillé olympique. Et c'est ce que j'étais en train de vivre. Et je ne voulais laisser personne, ou peu importe la décision, personne ne me gâchait ce moment-là. Donc, et ça a été un podium particulier. C'est un podium qui est différent de tous les podiums que j'ai pu vivre. Alors, bien sûr, c'est mon seul podium olympique, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autres podiums olympiques. Fabien et Alain seront mieux placés que moi pour en parler. Mais comme je le disais en introduction, il a toutes les saveurs. Cette médaille, elle a vraiment toutes les saveurs. Mais c'est ce qui la rend particulière aujourd'hui. Et spécial.
Fabien, Alain, les podiums, pour le coup, comment vous les avez vécus?
Mais, les podiums, si tu reprends les trois, comme Fred, 2008, j'ai eu du mal à l'apprécier. De toute façon, tu vois les photos, hein, tu vois nos têtes, tu te rends compte que le podium est ta mère. Et c'est ça, en fait. Parce qu'une médaille d'argent, c'est magnifique aux Jeux Olympiques. Moi, si tu me parles de celle de 2016, on l'a vraiment savouré. Moi, j'ai eu du mal, et je me rappelle encore, Fred était présent, il était là pour l'échauffement, il nous a accompagnés parce qu'il sait faire ce genre de choses. Il était proche du staff. Alain commentait, et je me rappelle des bras d'Alain quand on sort, parce que moi, je suis en larmes, elle m'a vraiment fait mal. Enfin, elle m'a marqué, celle-là, parce que je voulais regagner, parce que je sais que c'est historique, les doublés, et que ça s'est fait très rarement. Mais 2008, de l'amertume, 2012, une joie que tu n'arrives même pas à imaginer. Je pense que je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Enfin, le titre olympique, quand tu es gosse, tu y penses. Et quand tu réfléchis après d'où tu viens, une petite ville du nord de la France, oui, tu as travaillé dur, oui, tu t'es entraîné, mais aux quatre coins du monde, il y a tellement d'athlètes qui font ça, et toi, tu as la chance de toucher ça. Et au-delà de toucher ça, c'est, une fois de plus, j'en reviens toujours au même débat, mais je pense que ça a été la force de la natation de ces dernières années, c'est qu'il y avait une équipe, il y avait vraiment un sport individuel qui s'était transformé en sport collectif, il y avait vraiment une alchimie incroyable. Et c'est ce qui nous a permis de perdurer, finalement, parce que la médaille de 2016, ce n'est que la résultante de ce qui s'était passé les années précédentes, parce que tu as des jeunes qui rentrent. Alors certes, c'était talentueux, des Yannick Agnel, des Jérémy Stravus, des Florent Manaudou, mais tout le savoir-faire, en fait, nous a permis, en fait, de continuer de perdurer, parce que je me répète, mais tu peux avoir les quatre meilleurs du monde, Alain l'a évoqué, et Fred aussi, ça ne te garantit même pas d'être médaillé. Tu regardes une nation comme l'Australie ou la Russie qui sont très fortes dans notre spécialité, le 4x100, ils sont passés pratiquement à chaque fois du podium, à côté du podium.
Toi, Alain, sur la notion de podium, les émotions et les sensations que tu as pu ressentir?
Les sensations, surtout moi, l'Olympiade 2008, c'est clair, je suis passé un peu par tous les sentiments, un peu pareil comme les gars, essayer de relativiser un petit peu en se disant, putain, s'il y a un an, on nous avait dit, allez, un an et demi, on nous avait dit, les gars, vous serez vice-champion olympique, on serait tous tapés dans la main, on l'aurait dit tout de suite. Parce que, en fait, on est troisième à Melbourne un an avant au championnat du monde. J'ai revu le temps la dernière fois, c'est dérisoire. On fait 3-13, en fait, en 2007, et là on vient de faire 3-8, c'est-à-dire aussi bien les Américains que nous avions nagé 4 secondes en dessous le record du monde. Donc ce qui reste en soi l'une des courses du siècle, en fait, avec une fin pas heureuse pour nous. Donc forcément un moment d'amertume. Après, j'ai très peu de souvenirs, en fait, sur les podiums individuels sur le 100 mètres, tellement ça va vite, l'euphorie, tout mélangé. Je vois le président, il y avait le président de la Fédé qui était en larmes et tout, ça se voyait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pleure, quoi? Et après, le 50 mètres partagé aussi avec Amaury. Donc, c'est des moments uniques. Et voir les gars, 4 ans plus tard, en fait, sur la plus haute marge du podium, la main sur le cœur, devant les ricains comme ça, c'est juste extraordinaire. Et je savais qu'à ce moment-là, c'était de toute façon ma dernière course de ma carrière. Et j'étais vraiment en plénitude totale, quoi. Je fais pétard, mais Fabien, et en plus, quand je revois Fabien 4 ans après à Rio, je fais, mais Fabien était déjà là en 2004. Il était là en 2008, en 2012, et là encore en 2016, il remporte cette médaille dans le relais. C'est des légendes de nos sports en France qui font rêver aussi des jeunes, parce que cette notion de groupe et d'équipe, Fabien la porte très très bien. C'est aussi qu'il a eu aussi en héritage de Fred qui a parfait cette culture aux États-Unis et qui nous l'a ramené en France avec le bon côté de cette culture d'effet de groupe, de transformer, comme l'a dit Fab, un sport collectif en un sport d'équipe. Et c'est exactement ça. Mmh. Alors qu'au reste de l'année, on est adversaire, quoi.
Mmh. Et tu sais, pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, ça serait intéressant de poser la question au mec. Moi, si tu me poses la question de ce qui me manque le plus, les podiums ne me manquent pas, la notoriété ne me manque pas, tu vois, ces moments un peu de paillettes autour des grands moments, ça ne me manque pas du tout. Ce qui me manque, par contre, c'est les moments de vestiaire quand on était tous ensemble. Avant, après les entraînements, les préparations, tu te racontes des conneries, tu as des moments très sérieux où tu commences à douter, les moments où tu envisages la victoire et tu sais que c'est jouable. Et en fait, c'est ces petits moments de vie, en fait, je pense, qui nous ont tous transformés. Et je rebondis sur ce que Alain dit, c'est que les uns sans les autres, on n'aurait jamais fait les carrières qu'on a tous fait, parce que quelque part, on a tous perduré. Enfin, Alain, il a duré. Il dit que c'est vrai, il me dit que je suis resté plus longtemps, mais il est resté un paquet d'années. Et quand tu connais le niveau du 50 et du 100 crawl français à l'époque, c'était gigantesque. Fred, ça a été celui qui nous a, chez les sprinteurs, le premier fait rêver en battant le record du monde du 50 en petit bassin. Et je me rappelle même, moi, d'une époque où on était, je crois que c'était une année de championnat d'Europe ou championnat du monde. Je crois que dans l'ordre, c'est Alain qui bat le record du monde au championnat de France en petit bassin. Moi, je le rate en série des championnats d'Europe à 5 ou 6 centièmes et Amaury le bat l'après-midi. Enfin, on avait tous un niveau incroyable. Et quand tu parles de cette même compétition, le 4x50 crawl, je pense que c'est jamais arrivé de l'histoire de la natation où c'est pas qu'on a battu les autres. Ils étaient, je sais pas moi, 5-6 mètres derrière ce jour-là quand on bat le record du monde.
Et ces trucs de vestiaire, je pense que quand on fait voilà, chacun notre sport, on a nos sensations avec notre corps, nos trucs. Et en fait, on est capable de se comprendre des fois en un regard ou en deux mots, en fait. Et c'est cette alchimie, en fait, qui est juste géniale et qui manque aussi encore un peu aujourd'hui. Bien sûr, c'est dur, on en chie, on en bave les matins, les soirs, les courbatures, tout ce que tu veux. Mais quand on arrive à avoir cet alignement de planète, ben, si tu veux, l'ambiance, elle est en même temps hyper concentrée, hyper pro. Et en même temps, on se comprend en un regard, quoi. On dit, mais on vit la même chose, on parle le même langage. On parle le langage du sprint français, du sprint tricolore. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le comprendre. Et on a beau essayer de mettre des mots aujourd'hui dessus, on n'y arrivera jamais, je pense.
On va passer à la deuxième partie, qui sera, j'espère, tout aussi intéressante. C'est les à côté. Vous avez eu le temps. Alors, Frédéric et Fabien, vous avez fait 4 Olympiades. Vous avez eu le temps de voir d'autres choses, d'autres sports, d'autres disciplines. Ou alors, vous êtes vraiment focus sur vos courses uniquement.
Ben, c'est la beauté des Jeux. Hein. Enfin, quand tu parles Jeux Olympiques, tu parles de la plus belle des compétitions pour des athlètes olympiques. Tu peux être, pour moi, tu peux être 5 à 10 fois champion du monde, ça ne vaut pas un titre olympique. Et pourtant, Dieu sait que ça le mérite. Quand tu regardes la reconnaissance en France, tu es 10 fois champion du monde, tu n'as pas la Légion d'honneur. Tu es une fois champion olympique, tu as la Légion d'honneur, par exemple. Et les plus belles histoires du sport se sont écrites aux Jeux Olympiques dans des gros duels, des gros face-à-face. Et finalement, cette compétition, en fait, elle est tellement espacée tous les 4 ans. Il y a tellement de tensions parce que les années de championnat d'Europe ou championnat du monde, tu sais qu'il y en a qui ne seront pas en forme. Tu sais qu'il y aura des blessés. Donc, si tu veux, les médailles ont de la valeur, attention. Hein. Mais il y aura toujours le « tiens, lui, il n'était pas au top » ou « lui, il n'était pas là ». Les Jeux Olympiques, tu sais que tout le monde est là et que tout le monde sera au top de sa forme. Certes, tu peux passer à côté le jour J, mais par contre, tout le monde est préparé comme jamais. Et c'est ce qui rend cette compétition en fait incroyable. Et nous, la chance que l'on a, les nageurs, c'est que ben, la natation, c'est la première semaine et que la deuxième semaine, ben, on a la possibilité d'aller voir tous les autres sports, de profiter des Jeux Olympiques, que ce soit le jour ou la nuit. Et c'est un moment incroyable parce qu'une fois de plus, on construit une équipe dans tous ces moments off. Ouais.
Et donc, vous avez vu quoi alors justement comme autre sportifs qui vous ont marqué? On va commencer par le jour.
Parle-nous un peu de tes nuits, Fabien. Tu as vu quoi comme sport, enfin comme épreuve sportive, je veux dire.
Alors moi j'ai deux moments, et c'est du basket, c'est deux moments au self qui m'ont paru incroyables. Je crois que c'est 2004 la première fois où je suis un gosse et je pense que j'ai collé au basque de Fred et Romain pendant ces Jeux Olympiques là où je leur ai posé 100 000 questions à leur coller autour. On a vu l'équipe chinoise rentrer dans le self. C'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie. Les mecs, pour rentrer dans le self, en fait, la porte leur arrivait là. Ils ont dû baisser la tête pour rentrer dans le self. Ça m'a marqué, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et après, je suis fan de NBA. Et en 2008, je les ai revus après à chaque Olympiade, mais 2008, on a vu l'équipe américaine rentrer avec ce pas un peu nonchalant, tu sais, les LeBron James, les Kobe Bryant, les Jason Kidd, les Kevin Garnett, etc. Et tu es aux Jeux Olympiques, tu as tous les athlètes qui sont là pour performer. Le self, c'est arrêter de manger. Et je pense que tu as des dizaines et dizaines de filles qui se sont levées pour aller prendre des photos avec eux. Et c'est là où tu te rends compte que
la NBA... aussi.
Et de mecs aussi, il y en avait un peu moins quand même, mais il y en avait. Et c'est là où tu te rends compte que la NBA, ça reste quand même un sport particulier. C'est vraiment des grosses starlettes.
Ouais. Et toi, Frédéric, sur tes 4 Olympiades, pareil, si tu devais avoir quelques moments marquants comme ça avec les autres athlètes partagés.
Celui qui m'a sans doute le plus marqué, le moment, c'est sur mes premiers Jeux à Sydney en 2000. je suis allé voir la demi-finale de basket aussi, l'équipe de France qui jouait contre l'Australie, et, où on se qualifie en plus au dernier moment, vraiment sur les derniers moments du match. Et c'était une des seules disciplines que j'étais allé voir sur cette deuxième semaine, et je m'étais vraiment régalé. C'était un grand moment. C'était vraiment, bah, comme le disait Fabien, c'est les jeux, c'est une multitude de sportifs qui se retrouvent au même moment et sur le même piédestal quasiment. On a tous l'impression de faire partie du même mouvement olympique. Et puis il se passe des choses comme Fabien le décrivait dans le self, où on se rend compte que non, il y a les dieux, il y a les demi-dieux entre guillemets, sans pour autant se prétendre demi-dieux ou quoi que ce soit. Mais quand on voit les stars de la NBA ou les grands noms comme Usain Bolt qui arrive, tu te dis waouh, je suis en train de partager le même espace de vie et de partager la même épreuve sportive que ces gens-là. C'est incroyable, c'est hallucinant.
Tes premiers jeux à Sydney, c'est ceux qui t'ont le plus marqué dans le sens où c'était la découverte.
Ouais, ça me faisait rigoler quand Fabien disait qu'en 2004, il avait été comme un gosse et a collé au basket de Romain et nous posait plein de questions, parce que j'ai fait exactement la même 4 ans plus tôt à Sydney. J'avais 19 balais, je crois que j'avais les yeux, s'ils s'ouvraient un peu plus, ils allaient tomber tellement j'hallucinais sur tout ce que je voyais. C'est le Disneyland du sport, cet endroit-là. Donc, puis bon, d'autant plus Sydney en Australie où la natation est un des sports phares. Enfin, c'est des souvenirs incroyables. C'était il y a plus de 20 ans pour moi et c'est encore tout frais dans ma mémoire. Et Dieu sait que j'ai pas une bonne mémoire. Donc, c'est que ça m'a marqué.
Et moi, je trouve, je sais pas si vous, c'est ça, les gars, mais le survêt de l'équipe de France olympique, c'est autre chose que le survêt de l'équipe de France de natation. Moi, j'ai l'impression un peu d'enfiler une cape de super-héros et je me sens beaucoup plus fort quand je l'ai sur les épaules.
Grave. C'est clair. Et puis avec les anneaux, enfin, je sais pas, t'as le bleu, blanc, rouge, t'as les anneaux, enfin, c'est un truc de malade. Mais comme à rebondir sur ce que vient de dire Fred, ça peut vite être Disneyland et tu peux vite t'y perdre aussi. Moi, j'ai une anecdote à Pékin où on fait une séance de muscu, en fait, dans le village olympique, et t'as l'impression d'être dans Star Wars, c'est sur la planète Namek, en fait, entre les haltérophytes qui font 2,20 m et qui soulèvent 200 kg à l'arraché, et les gymnastes cubaines, en fait, qui font 40 kg et 1,40 m, tu dis, mais en fait, c'est qui le vrai gabarit? C'est quoi la norme, en fait? Eh ben, la norme, il n'y en a pas. La norme, c'est chacun qui est là pour représenter son pays, ses couleurs et tout. Ça peut vite être Disneyland aussi, tu peux vite te perdre et rater tes jeux. Il y en a qui ont raté beaucoup de choses comme ça, malheureusement.
C'est marrant, Fabien, tu disais le survêt des jeux te donne vraiment de la force. Moi, c'est typiquement, s'il y a un truc qui m'a marqué, moi j'étais à Sydney, c'était de porter ce survêt. J'avais l'impression, et c'est ce que tu disais, de sentiment d'invincibilité. Et tu sais qu'au deuxième match, donc nous on a 6 matchs pour aller au bout, deuxième match, je suis sorti du match et j'ai dit, je vais être champion olympique, tu sais, avec. Mais c'est exactement l'image que tu donnes, la cape de super-héros. Tu sais, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti aussi.
Mais tu vois, c'est intéressant de l'entendre de la bouche d'un tennisman, parce que pour nous, c'est vraiment le Graal, cette compétition-là. Pour toi, à l'époque, vaut mieux quand même gagner un grand chelem dans ton sport. Et pourtant, de t'entendre dire ça, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de magique là-bas.
Le seul truc, c'est que je pense que c'est très personnel. Après, donc c'est pour ça que je ne veux pas parler de tous les tennismans. Je parle de moi et je ne suis pas porte-parole du tennis. Moi, je sais qu'à Sydney, on nous posait justement des questions assez étranges. Simplement, tout le monde était surpris de nous voir au village olympique, si tu veux. Nous, c'était au village olympique, soit on ne faisait pas les jeux. Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens. Sinon, ce n'est pas les jeux. Donc, tu vois, cette grande famille dont vous parlez, c'est cette fierté, à un moment donné, d'appartenir à la famille France au sens large du terme et de se dire, putain, il y a 60 millions de personnes qui nous regardent. On n'a pas le droit de se louper. Tu vois, imagine, moi, c'est une mission. Enfin, je l'ai vécu comme ça. Après, encore une fois, c'est pour ça que je ne m'engage pas sur ce terrain glissant. C'est très personnel. Et après, peu importe ton sport, c'est agrandi aussi avec une certaine éducation. Moi, j'ai toujours regardé de près les Jeux Olympiques. Donc, après d'y avoir participé et puis après même en tant que chef de délégation, même si c'est différent, j'ai fait Londres et Rio, où ça s'est un peu moins bien passé, mais c'était une chance inouïe. Mais et vous avez d'autres anecdotes, justement, après, vous avez suivi un peu, donc tu disais, toi, Frédéric, le basket français et tout, mais vous vous souvenez justement d'images, alors vous en avez fait pas mal d'Olympiades, vous, ensemble, mais de moments, justement, où vous suivez un peu les Français, Les médaillés, enfin, tu vois, parce que moi, j'ai l'impression qu'on se prenait au jeu. En fait, au début, tu arrives, tu sais, tu regardes le début un petit peu partout, et puis dès que ça prend, putain, il y a un ou deux mecs comme ça, ou une ou deux femmes, évidemment, et tu commences à suivre. Et je trouve que c'est ça qui est aussi magique. Vous avez des images comme ça qui vous restent ?
Moi, j'ai une image, et c'est marrant parce que ça a été le cas sur les quatre Olympiades. Sur le dernier jour, en fait, il reste très peu de sport encore en lice. Et forcément, eh ben, il y a la finale du hand. Et je me vois sur chaque Olympiade monter dans le bus avec des dizaines de Français, tous sports confondus. On a tous terminé. On arrive devant l'enceinte. Les mecs nous voient arriver, nous disent « Non, 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 vous n'avez pas de billets, c'est pas possible, il n'y a plus de place. » Et en fait, on a forcé le passage. Et on a été s'asseoir dans les escaliers partout dans le stade pour aller vivre ce moment avec l'équipe de hand masculine.
Et est-ce que tu les as fêtés un peu les médailles avec les handballeurs après ou pas ?
Ouais, on les a souvent croisés le soir.
Alors, c'est qui les plus costauds en soirée ? Parce que, il paraît qu'ils sont très bons.
Ouais, c'est pas des tendres. Hein. Et puis en général, c'est pas des petits gabarits non plus, donc ça encaisse bien. Nous, en plus, on est fatigués fin de semaine. Ça fait déjà une semaine qu'on y est, c'est pour ça.
Vous avez justement sur ces médailles, après la deuxième semaine, ces quartiers libres, là, le staff et tout, c'est lâcher prise. Vous êtes en permission totale.
Ouais, c'est ça. Après le seul point où on était vraiment très vigilant, c'était le respect des autres athlètes qui continuaient. Donc, on n'était pas du tout perturbant dans le bâtiment France. Et c'est surtout que quand on rentrait, on était toujours en tenue France. Il fallait être respectueux des autres athlètes aussi.
Quand tu rentrais au petit matin et que les autres se levaient pour aller justement en compétition.
C'est ça. Je culpabilise d'avoir croisé des Australiens qui allaient nager. C'était la toute dernière, le dernier jour de compétition où on avait fini de nager. Et là, tu rentres avec ta veste, chemise et tout. Et il est 5h30, 6h. Et eux, ils vont faire la course de leur vie, ça se trouve. Et tu leur fais bonne chance. Et tu essaies de te faire tout petit. Mais genre, tu culpabilises trop, quoi.
La cérémonie d'ouverture, vous l'avez faite ou pas, ou vous la faisiez pas justement étant donné que vous commenciez très tôt?
Moi, je pense pas vous les gars non plus. Moi, je l'ai jamais faite.
Non,
jamais, parce qu'on nageait le lendemain. C'est tellement long en fait sous le stade à attendre.
Souvent, on nous a pas laissé le choix. Puis même le choix venait de nous-mêmes de refuser d'aller à la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose qu'on aurait aimé pouvoir vivre, hein, bien évidemment, mais. On était à chaque fois dans ce 4x100 qui tombait pile poil le lendemain de cette cérémonie. Donc, on ne pouvait pas se permettre de rester 5, voire 6 heures debout à piétiner et à attendre dans ce stadium pour se flinguer la course du lendemain. Donc, on l'a toujours vécu par contre ensemble dans l'appart au village olympique, à la suivre à la télé, les relayeurs. Je me rappelle souvent de ce moment, puisque c'est le moment qui lance les Jeux Olympiques. Et on sait que nous, dès le lendemain, on est au charbon. Et donc, c'était un peu ce qui nous réunissait une dernière fois et ce qui lançait vraiment cette course.
Il y a la cérémonie de clôture, par contre. Ça, on savait que voilà, si on pouvait rester jusqu'à la fin des Jeux, la cérémonie de clôture, c'est beaucoup moins protocolaire. Et après, il y a un peu tous les athlètes qui se mélangent dans le stade, etc. C'est un superbe spectacle aussi.
Et ça, vous l'avez faite, la cérémonie de clôture, à chaque fois?
À chaque fois, on en a profité. Ben, la chance que l'on a eue aussi, c'est de profiter des Jeux. C'est pour ça que les Jeux, c'est si beau. C'est-à-dire qu'on vit une compétition incroyable. Et ensuite, on est vraiment dans le côté spectateur. On était des enfants, aller voir les autres sports, profiter. C'est vraiment top et cool. Par contre, il y a vraiment une sensation, la cérémonie de clôture, qui est vraiment incroyable, et ça me l'a fait à chaque fois, et encore plus 2016, parce que je savais que c'était mes derniers Jeux. Au moment où tu as le compte à rebours et la flamme s'éteint,
j'allais te demander justement, c'est horrible.
Tu te dis, waouh, c'est déjà fini, et là, c'est dans 4 ans, bon, quelle horreur.
C'est ça.
Écoute, non, mais t'as envie de pleurer quand
la transition, la transition est toute faite, justement, c'est l'après-jeu, donc c'est ce que tu dis, là, quand la flamme s'éteint. Comment tu peux atterrir après de telles émotions? Comment tu le vis derrière les jours qui suivent? Alors les semaines, peut-être les mois, je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est propre à chacun, j'imagine aussi. Mais c'est ce que tu disais un peu, Fabien. Donc, c'est un moment justement un peu douloureux, là.
Ouais, c'est un moment douloureux parce que tu as les 2 semaines des Jeux. En général, on est 2 semaines avant ensemble. Donc, on vient de passer un mois ensemble à vivre en communauté où on s'est régalé, on a passé que des bons moments. Et moi, pour ma part, 2004, j'ai vraiment subi le retour. Je me vois encore arriver chez moi, poser les valises et me dire « Quelle horreur, ce vide-là, cette solitude !» Je ne suis pas parti en dépression, mais je pense que franchement, je l'ai mal vécu. Et de cette expérience, j'ai programmé à chaque fois mes retours de jeu que ce soit 2008, 2012, 2016, où je partais dès le lendemain, voire même le soir même, avec des copains, des amis, où je rejoignais du monde pour aller fêter ça et continuer à faire la fête, tout simplement. Parce que 2004, ça m'a vraiment fait bizarre le retour tout seul à l'appart.
Moi aussi, Alain Frère. Enfin,
il y a une énorme sensation de vide qui se crée, puisque on est dans une famille de plusieurs centaines d'athlètes français. Et d'un coup, on se retrouve chez soi, dans sa piole, ou dans sa chambre d'internat, dans son studio, ou son appartement, et face à nous-mêmes et face à ce silence. Alors qu'on vient de vivre le plus grand moment sportif de tous les temps et de notre carrière. Et ouais, ce retour, il est compliqué, ce retour, il est délicat. Et je pense qu'on était tous un peu dans le même cas de Fabien, après nos premiers jeux, à rentrer et à vivre ce petit, cette pseudo dépression, et qu'il faut contrer absolument. Alors après, comme Fabien le disait, hein, on rebondit et on part directement rejoindre nos amis, nos familles pour profiter d'eux et célébrer les moments qu'ils ont vécu à travers leurs écrans en nous suivant au jeu et continuer un petit peu à vivre à travers les questions et qu'on nous pose ce qu'on a vécu c'est les dernières semaines précédentes sur les Jeux Olympiques.
Et puis en plus, on faisait en sorte d'être présent pour Frédéric parce qu'il tombait souvent amoureux, il avait des chagrins d'amour au retour, c'était horrible.
Soudé jusqu'au bout.
Non mais toi Alain, les retours flamme, aussi, c'est un truc de malade. Ouais, pareil, cette flamme qui s'éteint, là, comme l'a dit Fab, c'est la flamme, c'est une flamme, c'est un symbole, mais c'est ça qui nous porte. C'est-à-dire le symbole de cette flamme, quand tu déprimes à l'entraînement ou en compète, tu fais des mauvais temps, tu as cette lueur d'espoir de te qualifier aux Jeux Olympiques, de faire quelque chose aux Jeux Olympiques, et dans cette cérémonie de clôture, tu vois cette flamme qui s'éteint, je pense que c'est fondamental de retrouver très rapidement quelque chose qui t'anime au quotidien, que tu sois entre deux Jeux Olympiques ou que tu arrêtes ta carrière, il faut trouver quelque chose qui te tienne en haleine parce que tu passes par des émotions extraordinaires avant les Jeux ou pendant les Jeux et que tu reviens à une vie normale, fade, plate, je ne sais pas si tu fais rien. Donc, tu as juste besoin d'extérioriser ça avec tes potes.
C'est sympa pour tous les proches.
Moi, j'ai une petite...
On peut couper. Ouais,
moi, j'ai une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Mes premiers Jeux Olympiques, en fait, j'avais pas conceptualisé le fait que tu es toute la partie alimentation et notamment McDonald's. Je m'attendais pas à avoir McDonald's en fait au village olympique. Et on va pas se mentir, on est des sportifs de haut niveau, mais le jour où on a fini, on passait notre vie au McDo, pour faire très simple. Et je me vois rentrer en France et j'ai continué sur ma lancée. J'ai été au McDo et en fait j'ai pris le plateau et je suis parti naturellement comme au JO. Et la pauvre nana derrière le guichet me dit mais monsieur, vous l'avez pas payé.
Ça fait ah bon, c'est pas gratuit ici. Merde, c'est la vraie vie quoi.
Pour finir un petit peu là, une question très compliquée, surtout vous en avez vécu des Olympiades. Si vous deviez garder une seule image des Jeux, laquelle serait-elle ?
Impossible de garder une image en fait. T'as tellement de flashs, de souvenirs, c'est ta vie qui est résumée en quelques secondes, en quelques jours d'aventure, etc. Moi, c'est, je pense, quand on se retrouve toute l'équipe, on sait qu'on part pour cette aventure. C'est la découverte du package, tu sais, du Survêt de France et tout. En fait, tu dis, voilà, à partir de là, tu sais que c'est officiel quelques semaines avant. Mais quand tu reçois le package, en fait, c'est matériel, comment dire. Mais moi, je suis assez matérialiste, mais c'est un symbole, pareil, comme la flamme, etc., de se dire, y a mon bonnet avec mon nom, il est juste à côté de celui de Fabien Gillot, à côté de celui de Fred Bousquet. Putain, c'est à côté de un tel. Et tu dis, mais on est tous là, le même truc, on est tous dans la même couleur, dans le même bateau. Voilà, c'est ce symbole-là. Parce qu'il faut que je choisisse, mais sinon, il y en a des dizaines.
Bien sûr, mais c'est pour ça, c'est pas obligatoirement une médaille, un podium, c'est un instant. Ouais. Toi, tu dis, c'est le moment où tu reçois le survêt, ça se concrétise en fait.
Ouais. Mais tu vois, c'est marrant quand même, parce qu'on a souvent tous un petit peu le même ressenti. Et moi, quand je vous dis que pour moi, en tout cas avec mes mots, que le survêt olympique, pour moi, ça a une valeur incroyable, on a tous admiré des athlètes dans le passé, nageurs, il y a eu des Français quand même médaillés également. Et je suis comme Alain, moi, je me rappelle de l'excitation la première fois où tu ouvres cet équipement olympique, il y a tellement de choses, moi, je n'avais jamais eu de package aussi fourni, je ne comprenais pas et j'hallucinais de tout ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit, finalement, c'est la première fois, c'est normal. Mais sur les trois Olympiades qui ont suivi, j'avais beau être plus âgé la dernière, j'avais 32 ans. J'avais toujours la même excitation d'ouvrir le sac.
Ça a changé de la première équipe de France avec ton paquet de tir, avec ton t-shirt, avec ton pingouin. Ma première équipe de France, j'avais un souci de livraison. Laisse tomber, tu avais un t-shirt avec un pingouin ou un lézard et un bonnet gris. Même pas de bleu, blanc, rouge, rien. C'était un enfer. Et là, tu vois ça, tu te dis, ah, ça y est, je fais enfin vraiment partie de l'équipe.
Toi, Frédéric, une image, un moment
Non, l'image qui moi, à chaque fois, c'est celle qui reste le plus, c'est le flamme olympique qui brille au-dessus de nous tous, en fait. Qui nous donne la vie, qui nous illumine et qui veille sur nous un petit peu également, en fait. J'aimais passer du temps à l'observer dans sa forme unique et différente à chaque fois. Et voir la symbolique de cette flamme qui est la flamme qui anime tous les athlètes que nous sommes, toutes les femmes et tous les hommes qui donnent une partie de leur vie ou toute leur vie pour ce qui les passionne à travers leur discipline. Mais c'est ça qui reste pour moi.
Messieurs, écoutez, je vous remercie vivement pour vos témoignages, pour votre simplicité, pour votre bonne humeur. On sent un bon groupe bien soudé qui en a vécu des choses. Je vous remercie mille fois en tout cas d'avoir participé à ce podcast et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.
C'est gentil. Merci Arnaud, merci les gars.
C'était top, merci beaucoup.
C'était plaisir,
merci
les gars. Beaucoup.
Prenez soin de vous les gars, bisous.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.